On va donc pouvoir passer à la quatrième et dernière séquence de cette journée. Merci. Qui s'intitule Aménagement résilient du territoire. Donc, pour cette dernière séquence de la journée, seront abordés les thèmes des stratégies d'adaptation face à la montée des eaux, comment concilier attractivité et changement climatique, et l'approche durable de la gestion du littoral. Donc, pour débuter, je vais inviter Laurent du Master EPE, expert en projet européen au service du développement local, à me rejoindre pour une présentation, il me semble, originale.
Allô? Oui. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme Antoine vient de le dire, je m'appelle Laurent, comme quelqu'un d'autre dans la salle, je crois. Moi, je vais vous parler, je vais vous faire une petite présentation sur comment concilier l'attractivité résidentielle et le changement climatique. Donc, vous allez devoir participer. Ça va prendre la forme d'un jeu, d'accord? Je vais vous poser quelques questions et je vais vous montrer des cas. En fonction des cas, je vais vous poser une question. Vous allez devoir répondre par oui en applaudissant ou par non en gardant le silence. Très bien, on va commencer avec 2-3 petits exemples très simples, histoire que vous compreniez le jeu. Et ensuite, on va démarrer. Regarde, je te laisse passer. Alors, si je vous dis, est-ce que vous êtes en faveur de la protection pour les espèces en danger? Très bien. On n'a pas le même avis, mais... Alors, Agathe. Alors, est-ce que vous êtes en faveur de la chasse aux bébés phoques? D'accord, je prends ça pour un oui. Maintenant, on va commencer notre sujet. Alors, ma question sera, territoire résilient ou non? Je vais vous montrer quelques cas de territoires et vous me direz s'ils sont résilients, à votre avis, ou non. Alors, un territoire résilient, qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire qui est capable de supporter une crise, qu'elle soit brutale ou lente. Donc, dans notre cas, le changement climatique. Alors, je te laisse passer. Alors, ici, on est à Ouistreham, à la pointe du siège. C'est un territoire préservé. J'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est un territoire résilient, oui ou non? Ah, c'est mitigé, vous avez raison. Parce qu'effectivement, je pensais premièrement aussi que c'était un territoire totalement résilient, mais il y a un parking qu'on ne voit pas sur la photo, c'était mon petit piège évidemment. Il y a un parking sur la photo pour permettre aux voitures de venir jusqu'à la côte. Ce parking se situe en zone submersible et il a pour projet d'être supprimé. Car le but de la pointe du siège, c'est qu'elle fasse zone tampon pour les éventuelles submersions qui pourraient arriver au futur avec l'embouchure de l'Orne qui crée un choc avec la Manche. Ensuite, la plage de Dieppe. Alors, comme on peut le voir à la plage de Galée, en Haute-Normandie, vous voyez bien qu'il y a... Donc, on est sûrement en été, vu la quantité de personnes. Pensez-vous que c'est un territoire résilient ou non? Non? Oui, effectivement, ce n'est pas un territoire résilient. Non, oui, c'est effectivement ça, parce qu'on voit avec la quantité de personnes que la saisonnalité est terrible. Les gens viennent consommer tous au même endroit, et donc ça crée beaucoup de surconsommation, beaucoup de déchets, et donc ça pollue un territoire qui est déjà fragilisé. Agathe. Alors... Vous voyez une belle plage, on n'est pas en Normandie. Désolé. Donc, comme son nom l'indique, Playa del Carmen, c'est une ville. On se retrouve sur la côte caribéenne au Mexique, d'accord? Donc, à première vue, cette plage apparaît être une zone protégée de toute activité touristique. Cependant, j'ai trouvé cette photo sur un site d'un guide de voyage. Alors, Agathe, je te laisse passer. Voilà, voilà à quoi ça ressemble, Playa del Carmen. Actuellement, c'est une plage qui, dans la saison des sargasses, entre avril et août, est remplie d'algues. Donc, les sargasses sont des algues. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est une station balnéaire. L'activité touristique a réchauffé la mer. Le réchauffement de la mer a modifié les courants marins. Et c'est-à-dire maintenant, depuis quelques années, les algues viennent se déposer sur cette plage qui, à l'origine, n'avait pas d'algues, comme je vous l'ai montré juste avant, qui est une vieille photo utilisée par les guides touristiques. Donc, En effet, ce qui s'est passé sur cette plage, donc il y a 15 millions de touristes par an, on pourrait se dire que ça n'arrivera pas dans une zone un peu plus loin du tourisme de masse. Et en fait, chez nous, en Normandie, on a la falaise du Cap Romain, à Bernières-sur-Mer, qui, vous voyez, sur la gauche, on voit la falaise qui se fait manger petit à petit par l'océan, par la mer, la Manche plutôt, à cause du recul du trait de côte. Donc la falaise recule, recule, recule. Les enjeux, c'est quoi ? C'est que vous voyez sur la photo de droite qu'il y a des habitations dessus et très, très, très proches du bord. Ces habitations seront bientôt, dans quelques décennies, plus habitables, puisqu'elles sont submersives. Et le problème ici, c'est que les enjeux ne sont pas du tout pris en compte, puisque le prix de l'immobilier ne baisse absolument pas. Les gens n'ont pas l'intention de baisser de vendre leur maison ou de relocaliser leur habitation. Ensuite, nous allons parler des stratégies, des solutions en outre pour les résidences des territoires. Ma question sera, est-ce que cette stratégie vous paraît permettre la résilience du territoire ? Oui ou non ? On continue avec le même petit jeu. Alors, le Conservatoire du Littoral, c'est un établissement public, d'accord ? Il y en a un dans chaque région. À Caen, nous avons un. Il situe notamment la Maison de la Nature. Sa stratégie, dont je vais parler, qui me semble important de noter, c'est qu'ils acquièrent des parcelles sur les littoraux pour permettre leur conservation et leur restauration. Cette stratégie, à votre avis, est-ce qu'elle encourage la résilience ? Est-ce qu'elle permet la résilience du territoire ? Oui, en effet, c'est comme on a vu, la pointe du siège, que vous avez vu aussi sur précédemment, est un territoire qui appartient au Conservatoire du Littoral, un espace qui appartient au Conservatoire du Littoral. Et ça permet donc de conserver la valeur patrimoniale qu'on a sur nos littoraux et protéger aussi les espèces endémiques et les catastrophes climatiques, comme par exemple la submersion. Du côté de Caen-la-Mer, on prône un tourisme durable. Alors, on a notamment quelques actions qui étaient mises en place, comme la construction de 400 km de pistes cyclables, des chemins de randonnée et la distribution de chèques loisirs aux habitants de la communauté de communes. Est-ce que pour vous, c'est une bonne stratégie pour le tourisme durable ? Ok. Eh bien oui, effectivement, c'est plutôt pas mal, puisque leur stratégie, elle met l'habitant au centre de leur stratégie de tourisme, ce qui permet d'éviter la saisonnalité du tourisme et, en période un peu plus creuse, de faire fonctionner les structures touristiques. Enfin, je vais vous parler du camping de Quiberville. Donc on revient par là, on a commencé, donc à côté de Dieppe, en Haute-Normandie. C'est la commune a décidé de relocaliser son camping, qui était situé en bord de mer, vers l'intérieur des terres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Merveilleux, tout le monde est d'accord. Mais oui, c'est un signe d'adaptation très très fort en fait, de la commune, et elle comprend réellement les enjeux, contrairement à ce qu'on avait vu par rapport aux habitants du Cap Romain. Ici, on voit que c'est une commune résiliente. Enfin, ma dernière question, est-ce que vous avez entendu parler des stratégies locales d'adaptation dont je vous ai montré avant ma présentation ? C'est génial. Je pensais avoir beaucoup moins de réponses. Eh bien, Zoé, je te laisse la main. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Laurent, pour ta présentation. Merci à toi. Je t'invite à retourner à ta place, du coup. Donc, il nous reste une seule présentation étudiante pour terminer ce colloque. Donc, je vais inviter Maxime du Master Green à nous rejoindre pour faire sa présentation.
Bonjour, ça marche ? Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour notre part, on a fait une journée d'études au CPIE, du coup, qui était dans l'Orne. Et donc on va un petit peu baser cette présentation sur les exemples qui nous ont été amenés durant ce voyage d'études. Donc pour ce faire, on a travaillé sur trois axes donc, qui tous parlent de l'impact entre terre et mer. Donc le premier axe du coup sur la préservation de la biodiversité, notamment du coup sur la pollution chimique qui provient de l'agriculture, qui est rejetée dans les océans. Donc on pense notamment à des pesticides ou à des hydrocarbures. Et l'impact de ces pesticides a des conséquences assez dramatiques sur les espèces marines. On pense notamment au phénol qui empêche l'adaptabilité de certains poissons à s'adapter justement à cette augmentation des températures. On a aussi des problèmes de migration, donc certains poissons migrent vers d'autres zones, et des problèmes de reproduction de certaines espèces qu'on peut observer. Donc ensuite, bon, on a les AMP et les ZEPF qui ont pas mal fait parler depuis ce matin, donc je sais pas trop si je vais revenir dessus. Mais donc voilà, les AMP sont utilisés évidemment pour préserver la biodiversité, et on regrettera notamment certaines activités humaines qui sont présentes dans ces zones, et que les ZPF représentent seulement 0,03% des zones. Donc dans la préservation de la biodiversité, toujours, on a avec le CPIE vu l'exemple des tacons, donc qui sont les petits saumons qu'on retrouve dans des radiers. Et donc pour préserver ces espèces, le CPIE œuvre notamment en protégeant ces zones avec des balises et en prévenant les kayakistes. Donc voilà, il y a une attention toute particulière qui est portée sur cette préservation de la biodiversité. Et comme on avait parlé tout à l'heure, notamment de M. Drouot, je crois, sur le port de Granville, qui est un des ports les plus importants de la Manche. On a les bulots, qui est vraiment un des symboles de ce port, où vous pouvez voir selon le cycle, on a une augmentation des températures qui fait qu'il y a une migration et donc moins de pêche, et ce qui conduit inéluctablement à une perte d'emploi. Enfin, donc, on a l'anticipation des risques naturels. Donc là aussi, on a vu qu'il y avait une potentielle augmentation des catastrophes naturelles. On l'a vu en faisant un atelier qui s'appelait l'atelier Tsunami, qui se situait dans le tiers-lieu El Capitan. Donc, c'était un exercice de simulation qui visait à montrer, en fait, en cas de submersion marine, comment en fait, on anticipait les déplacements des populations, des migrations, etc. Parce que, bon, on le sait, les migrations intra- et extra-étatiques vont être très nombreuses dans les années à venir. Selon les Nations Unies, d'ici 2050, on aura 1,2 milliard de réfugiés climatiques. Donc la question du relogement dû aux submersions marines est plus que primordiale. Et enfin, dans les risques naturels, toujours liés aux risques de submersion marine, on a vu avec le syndicat de la Rouvre, qui s'occupe des bassins versants notamment, qui s'occupe en posant des granulats, notamment dans les fleuves, pour permettre une meilleure adaptabilité de ce lien. Et on a aussi une reméandrisation, je crois, des fleuves, qui permettent un écoulement plus naturel. Et en cas de submersion, ça permet en fait de limiter un petit peu les dégâts, notamment sur les bassins versants. Et donc voilà. Enfin, on voulait insister sur éduquer, sensibiliser et communiquer. Donc toujours avec le CPIE, on voit qu'il y a un gros effort qui est fait sur l'éducation à ces enjeux qui vont arriver, notamment avec les écoles. On voit que le CPIE de l'Orne œuvre beaucoup avec les écoles alentour pour sensibiliser justement sur les futurs enjeux environnementaux. On a également une utilisation de la ludopédagogie qui permet justement d'avoir conscience de toutes ces toutes ces choses-là. On a la sensibilisation également. On a un peu évoqué ce matin. Il y a beaucoup de communication qui est effectuée, en tout cas d'efforts de communication de la part de l'État, notamment en proposant plusieurs activités. Et on pense qu'il y a un vrai rôle de la part de l'individu à jouer en fait dans cette sensibilisation aux différents enjeux. Qu'il y a une grande part effectivement dans requalifier son autonomie sur le territoire, qu'il y a un vrai intérêt en fait qui doit s'effectuer de la part de l'individu. Et donc les luttes doivent être un peu géosociales aussi, comme le dirait Bruno Latour. Et enfin, donc on avait aussi la communication, et mais ça on en a déjà beaucoup parlé, les efforts de communication ne sont pas forcément évidents. Et on aimerait avoir un petit peu plus de clarté, notamment sur les questions de sobriété énergétique, voir si les éoliennes offshore qui vont s'implanter vont servir d'ajout énergétique, ou est-ce que ça va servir justement à partager les énergies renouvelables et non renouvelables. Voilà, c'est super. Et pour conclure, donc là on vous a proposé trois axes donc, qui sont sur préservation de la biodiversité, anticipation des catastrophes et communication, éducation et sensibilisation. Donc évidemment, ces trois axes de recherche sont non exhaustifs. Il y en avait plein d'autres, mais ici, dans le cadre de notre journée d'études, c'est un peu ce qu'on avait extrait en fait, des différentes activités qu'on avait pu voir. Et grâce à ces différents axes, en fait, on a pu voir qu'on peut agir en fait, à différentes échelles, qu'elles soient locales, individuelles ou régionales, nationales, mais que c'est qu'une bonne coordination de toutes ces initiatives qui permettra d'avoir une efficience maximale. Je vous remercie.
Merci Maxime pour cette dernière présentation de la journée. Je vais maintenant laisser la parole à Amy pour le dernier temps le dernier temps d'échange pardon, avec la salle et avec tes intervenants. Je te laisse la main.
Merci Antoine. On se retrouve pour ce temps d'échange sur la résilience des territoires. On va avoir environ 15 minutes pour explorer des questions liées au rapport terre-mer, à la conciliation de l'attractivité résidentielle et du changement climatique et aux stratégies d'adaptation des zones côtières. Donc, je vais vous présenter les participants tout d'abord. Donc, je vais appeler Manon du Master des DSC. Elle a participé à l'élaboration d'un cahier d'acteurs sur le sujet de la conciliation de l'attractivité résidentielle et du changement climatique. Ensuite, il y aura Evan du Master Sociaux Parcours Gouvernance des risques de l'environnement. Et puis Marie, Master Concertation et Territoire en Transition de Sciences Po Rennes. Et enfin, Laurent du Master EPE que nous venons de voir. Donc nous allons pouvoir commencer. Ma première question, c'est quels sont vos constats que vous avez pu faire concernant la gestion des zones côtières face au changement climatique ? Il manque un micro. Je ne sais pas qui veut commencer en premier. Vas-y.
Alors les constats qu'on a faits, pour nous, pour rappeler, on était allé pas mal sur les terrains pour voir des initiatives locales. Et en tout ce qui était en lien avec la résilience du territoire, qui est un terme très très vaste. Ce qu'on a constaté, c'était qu'il y avait pas mal d'initiatives qui étaient vraiment axées sur les façons de vivre et de vraiment changer la façon de produire de la nourriture, d'habiter le territoire. Et le projet de la mer en débat à Ouistreham, par exemple, a été par contre assez, très axé sur ce parc éolien, et pas que, mais c'était quand même l'aspect très central.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur cette question ?
Moi, je vais m'attarder notamment sur le littoral, du coup. On a fait un voyage d'études avec le master des DSC et aussi le master EPE, donc expert en projet européen de Laurent. Merci. Et donc, en effet, on a fait plusieurs constats. On observe un phénomène d'accrétion et d'érosion. Donc, pour rappel, l'accrétion, c'est en gros la terre qui avance vers la mer par l'accumulation des matériaux. Malgré qu'il y ait une forte installation près du littoral, et encore plus depuis le Covid et les Parisiens notamment qui viennent plus près des côtes, c'est pas une critique, hein, c'est un constat, pour les avantages récréatifs, résidentiels ou encore économiques. Et donc ça pose des problèmes pour les habitations ou encore pour la biodiversité, forcément ça perdure la biodiversité. Il y a une augmentation des risques d'inondation et des pertes de terres agricoles, comme nous l'avait expliqué Frédéric Gresselin, je ne sais plus où il est, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, merci, à Vers-sur-Mer, lors de notre voyage d'études, du coup. Et ça provoque des phénomènes comme l'effondrement de falaises, comme à Fécamp en février 2023, par exemple.
D'accord, merci Manon. Du coup, tu as parlé d'attractivité résidentielle. Je pense qu'on peut aussi parler d'attractivité touristique. On sait que le secteur touristique est essentiel en Normandie. Qu'est-ce que vous avez pu observer concernant l'intégration de ce secteur dans les plans d'aménagement du territoire? Je pense que Sciences Po a travaillé là-dessus.
Bonjour. Tout à fait. D'abord, l'importance du tourisme. Nous, on a travaillé sur le Cotentin. Donc un espace où le tourisme a une importance, très attractif par son patrimoine naturel. Le slogan de Cherbourg-Cotentin, c'est « Cotentin unique par nature ». Lors de notre premier séjour à Cherbourg, nous avons réalisé des questionnaires. Et une de ces questions était « Pourquoi fréquentez-vous cette façade maritime en particulier ?» Et pour ce qui est des réponses, nous avons obtenu à 49% la proximité et à 47% le paysage. Donc une grande importance du patrimoine naturel. Donc nous sommes intéressés à la question des éoliennes en mer et quel impact aurait l'implantation des éoliennes en mer sur le tourisme. Et donc notre question, c'était voilà, quel impact visuel. Et finalement, sur le terrain, on n'a pas eu tant de réponses par rapport à ça. Pas un accueil pas de réponse si marquée sur un impact négatif quand on s'est intéressé, quand on a interrogé les touristes. Donc finalement, on n'a pas creusé plus que ça là-dedans parce qu'on n'avait pas assez de réponses là-dessus. Et une autre question sur laquelle on s'est interrogé, c'était la pression immobilière qui pourrait être posée dans un espace qui est attractif, avec très peu de chômage, avec un tourisme qui veut encore se développer. Quelle pression sur l'immobilier et, on s'est aussi posé la question du phénomène d'airbnbisation. Et on a eu une discussion, un entretien avec une délégation interministérielle à ce sujet qui nous a confirmé dans les questions que pose le tourisme sur la pression immobilière dans le Cotentin.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur le secteur du tourisme et les infrastructures qui sont liées ? Non, je passe à la suivante. De façon générale, du coup, là, c'est ce dont on parlait un petit peu, mais dans vos recherches, est-ce que vous avez fait des constats sur l'implication des citoyens ou des collectivités locales dans la résilience des territoires ? Concernant les décisions des élus
Alors, du coup, avec ce voyage d'études, toujours, on y revient, on a vu que les intercommunalités de plus de 20 000 habitants devaient mettre en place un plan climat. Et on a vu notamment avec quand la maire, je crois que tu évoquais tout à l'heure, Laurent, et son projet de territoire Horizon 2030, et notre littoral pour demain, qui est un projet mené par la région depuis 2014, du coup. Il s'adapte et après je pense qu'il y a aussi pas que de la part des collectivités un travail à faire finalement et que ça doit être plutôt commun que ce soit à échelle individuelle ou à échelle plus grosse.
D'accord, merci beaucoup. Une dernière question, ce serait est-ce que vous avez des suggestions concernant les mesures d'adaptation, de prévention ou de sensibilisation ? Des citoyens, des élus.
Donc, je commencerai par un peu une inquiétude qu'on avait eue pendant... Parce que ça amène à la proposition. Une inquiétude, c'est des dynamiques qui ont tendance à se mettre en place quand on parle de sources d'énergie, de comment habiter un territoire de façon durable. C'est que souvent, quand on met un dispositif en place, on peut avoir des effets, les effets inverses. J'ai entendu tout à l'heure, dans une autre présentation, quelqu'un dire que dans la Manche, il y a quasiment le plein emploi grâce au secteur de l'énergie, ce qui est sûrement vrai. Mais ça veut dire aussi qu'on est dépendant de ce secteur pour avoir de l'emploi. Donc notre subsistance est liée à l'énergie. Donc plus on produit de l'énergie, plus on met en place des grands parcs, plus ça crée une économie, une industrie tout autour, plus on a intérêt à l'agrandir et à en faire toujours plus. Il y a des travaux qui sont sortis cette année bon, c'est pas la première fois, mais qui sont de plus en plus synthétisés, qui montrent que souvent, quand on parle de transition énergétique, en fait, les énergies, les anciennes énergies ne diminuent pas, mais restent au même niveau. Donc, on a un peu l'idée, par exemple, que quand on est passé au charbon, on a abandonné le bois avant, mais en fait, le bois n'avait jamais été autant utilisé que quand on a commencé à l'utiliser dans les mines de charbon. Et il y a un peu la même chose qui risque de se passer aujourd'hui. C'est un peu à cause de cette dynamique de l'emploi qui peut y avoir la raison. Parce que si on est vraiment dépendant, on a tout intérêt à utiliser plus d'énergie. Et ce n'est pas juste parce qu'on a créé ces parcs que nos usages de pétrole vont diminuer. Donc la proposition, c'était quand on est allé voir qu'il y a en fait plein d'initiatives locales qui existent déjà, qui tournent vraiment autour de la réduction des besoins en énergie et pas juste du remplacement. Donc c'est d'aller voir et mettre en valeur ces initiatives qui existent déjà.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à proposer ?
Lors de la préparation de cette table ronde, nous avons un moment discuté de la question du consensus, du consensus autour du besoin d'adaptation. Et donc évidemment, il y a ce constat d'une nécessité de consensus et d'une situation avec des conflits d'usage et une situation où tous les problèmes et les solutions ne sont pas évidentes. Et ces conflits d'usage, on les a ciblés quand on a mené des entretiens avec des représentants, que ce soit du monde de la pêche, des associations défendant l'environnement, des habitants, des administrateurs du territoire. Et donc après ce constat d'une nécessité de consensus, la question c'est quelle stratégie mettre en place. Et je pense que la première question, elle tourne autour de l'information, d'une information qui est nécessaire sur les débats en cours et sur les projets, et d'une information qui doit permettre au public de se sentir légitime à donner son avis, à intervenir. Donc une information qui n'est pas de l'ordre de convaincre le public en l'informant, mais vraiment de légitimer le public à s'exprimer sur les projets en cours. Et une autre question qui me semble importante au sujet des stratégies d'adaptation, c'est la question de la temporalité. Est-ce qu'on veut créer du consensus autour de l'élaboration des projets ou, une fois que les projets ont été adoptés, un consensus autour de leur application, en sachant qu'évidemment, il y a des contraintes extérieures au niveau des agendas, notamment sur l'urgence de la situation climatique. Donc, des questions à se poser. Et un tout dernier point sur le rôle de la science dans ce consensus. La science qui est notre la plus consensuelle, et qui pourrait servir de point d'appui sur la construction d'un consensus. Donc très importante. Et donc la question, c'est la médiation scientifique, comment faire en sorte que tout le monde puisse prendre en main les constats scientifiques. Donc voilà, la médiation scientifique en premier point. Et pour finir, je me souviens d'une conversation très intéressante lors d'un atelier de discussion que nous avons mené à Cherbourg avec des étudiants. Une discussion entre deux étudiantes très intéressante, l'une qui disait moi j'ai pas d'avis sur les éoliennes en mer, je pense qu'il faut avoir accès aux constats scientifiques avec les risques, les enjeux, les opportunités, et l'autre qui lui répondait oui évidemment il faut partir de ça, mais il y a aussi une question de subjectivité sur est-ce qu'on trouve ça beau, est-ce qu'on trouve ça souhaitable, et voilà, une décision qui peut aussi être subjective et politique.
D'accord, merci beaucoup Marie. Écoute, ça va conclure ce temps d'échange, donc je vous remercie tous les quatre. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc là, il y a eu quelques inquiétudes et suggestions qui ont été évoquées par les étudiants. On a maintenant 25 minutes devant nous pour échanger avec vous. Comme pour les autres temps d'échange, vous avez Chris et Emma qui vous donneront un micro, donc n'hésitez pas à lever la main et à réagir à ce que nous venons de dire. La parole est à vous.
Ok, bonjour, donc Adrien Minguet, étudiant du BUT Carrière Sociale Parcours Ville et Territoire Durable. Je voulais juste revenir sur le camping résilient. Je pense que c'est une très, très bonne idée de l'éloigner du trait de côte, comme ça a été fait. Cependant, je tenais à nuancer le fait que, pour moi, un camping dans lequel tout le monde vient avec son camping-car de 3 tonnes, ça ne peut pas être résilient. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. On note tout ça. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir là-dessus ou poser une autre question ? Ou des réactions, des avis ? Oui, monsieur. Emma ? Ah bah. Juste après.
Alors, Simon Polis, doctorant à l'université de Caen, laboratoire M2C. Alors, c'est pour aussi l'évolution du trait de côte. Ça serait plus une question pour les gens de la DREAL, justement. Je voulais savoir, c'était quoi, justement, le schéma de gestion intégré du trait de côte par rapport à la Normandie ? Et aussi, est-ce que vous abordez déjà le sujet de recomposition spatiale ?
Donc, si une personne de la DREAL souhaite réagir.
Frédéric Gresselin, donc de la DREAL. C'est une question complexe, malgré tout.
Juste rapprocher un petit peu votre micro, vous entendez.
Donc, la gestion intégrée du trait de côte, c'est difficile de la concevoir actuellement parce qu'il nous manque encore pas mal de connaissances, notamment sur les interactions entre nos activités et le biologique. La biologie, les milieux naturels nous rendent beaucoup de services. On les a énormément altérés. Et nous nous sommes implantés au plus près et nous avons créé une infrastructure globale au long de notre littoral qui est très rigide et qui ne permet pas une résilience aisée. Donc on est obligé de travailler avec, pour l'instant, cette nécessité de travailler sur une étude intégrée, mais avec des contraintes fortes. Et par ailleurs, nous avons une politique assez ambitieuse qui s'appelle Littoraux Normands 2027, qui est conduite par le préfet de région. C'est nous qui sommes la cheville ouvrière, la DREAL, et qui permet de travailler avec tous les partenaires qui interviennent sur le littoral, les grandes collectivités, les établissements publics, le PFN qui travaille sur le foncier, les techniciens de l'État et autres. Et j'avoue qu'en peu de temps, on a pas mal avancé sur notre façon de mieux concevoir ce qu'il faudrait faire. Après, le Conseil régional aussi a développé une stratégie dans le cadre d'un dispositif que vous avez évoqué qui s'appelle Notre Littoral pour Demain. Et grâce à ce dispositif, les collectivités se sont soudées entre elles pour pouvoir réfléchir à quelle pourrait être leur stratégie de recomposition de l'espace côtier. Et ça, dès 2014-2015, notamment dans le département de la Manche. Et il y a eu une émulsion très rapide. En l'espace de 4-5 ans, il y a eu beaucoup de choses de réaliser. Malheureusement, pour l'instant, nous manquons de foncier. On n'a pas réfléchi à où trouver du foncier pour se repositionner. Nous manquons d'argent. C'est-à-dire que les montants financiers sont gigantesques. Par exemple, pour Barneville-Carteret, qui est une petite station balnéaire, c'est en gros, à l'échéance 2100, peut-être 200 millions d'euros de travaux à faire pour recomposer, délocaliser les biens qui sont submersibles d'une façon ou d'une autre, par les cours d'eau, par la mer ou par les nappes d'eau souterraine. Et donc, on est un petit peu coincé. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des contraintes qui sont liées aux politiques qui sont déjà conduites. Notre trajectoire, il est difficile de l'arrêter comme ça. Et enfin, des problèmes de réglementation qui interviennent parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau des communes littorales. Donc il va falloir dérigidifier un petit peu ça avant de pouvoir passer à l'action. Mais la réflexion a été conduite déjà pour partie et rapidement, donc c'est assez encourageant.
Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, Emma, il y avait aussi devant, deuxième rang.
Oui, Jean-Claude Auvin, professeur émérite à l'Université de Caen-Normandie. Je voudrais interpeller d'abord Laurent. En ce qui concerne votre définition de la résilience, vous l'avez donnée. Pour moi, qui suis un écologue, ce que vous définissez résilience, c'est de la résistance, c'est-à-dire la capacité à ne pas être modifié lorsqu'il y a un stress. Pour moi, la résilience, c'est la capacité qu'a un écosystème, après un stress, une pollution, de retrouver les conditions initiales à celles qu'il y avait avant une perturbation. Je vous donne un exemple, vous n'étiez pas né, J'ai travaillé sur la pollution de la Moco Cadiz qui s'est échouée sur les roches du nord du Finistère en 1978. Et je travaillais sur les bestioles, les animaux qui vivent au niveau du fond, qu'on appelle le bateau, qui ont été fortement affectés par la pollution par les hydrocarbures. Et le temps nécessaire à retrouver des conditions écologiques comparables à celles avant pollution était de 7 ans. Et si on compare avec l'ensemble des stress, des pollutions, peu importe, c'est réversible. Souvent, les temps nécessaires à la reconstitution des communautés marines et des écosystèmes marins, c'est de 7 à 10 ans. Alors ma question, c'est, dans vos lectures, est-ce que vous avez pu voir quel était le temps nécessaire à la reconstitution des écosystèmes lorsqu'il y a des démantèlements de parcs éoliens, parce qu'il y en a déjà au niveau de la mer du Nord, où on a parlé ce matin d'une préoccupation du public par rapport aux extractions de granulats. Ce sont généralement des extractions qui durent comme le temps pratiquement d'un champ d'éolienne, 25-30 ans. Est-ce que vous avez des idées du temps nécessaire pour retrouver les conditions à peu près comparables à celles avant extraction?
Je peux utiliser ce micro, oui. Merci de votre question et de votre précision. Je suis expert en projet européen. Je n'ai pas vraiment fait d'études sur ce thème-là, sur la chronologie, sur le temps que ça prend. J'ai plutôt fait une définition qui se rapproche de l'origine, c'est-à-dire qui vient à l'origine de la réaction d'un métal, en fait, à comment un métal réagit. Donc non, je n'ai pas fait... Mais merci de la précision. Mais non, je n'ai pas de réponse à vous apporter pour ça. C'est vrai. Oui, je le suis.
Peut-être quelqu'un peut répondre à cette question dans la salle. Si vous pouvez rappeler votre question.
Non, c'est le temps de reconstitution, c'est 7-10 ans. Donc, la solution, c'est réversible par rapport à ce qu'on a discuté ce matin du nucléaire.
Ou pas du nucléaire, il y a un certain nombre de situations qui sont réversibles. En revanche, moi qui ai travaillé aussi sur l'estuaire de la Seine, on voit que les aménagements successifs, pont de Normandie, pont de Tancarville apparemment, port 2000, la Châtière, ça fait que les aménagements sont à des temps inférieurs à la reconstitution des systèmes. Donc il se pose la question de la rapidité des aménagements qui sont souvent cumulatifs par rapport à un espace restreint. Pour donner un chiffre, en 1850, avant qu'il y ait des aménagements majeurs de l'estuaire, la partie aval de l'estuaire de la Seine, la zone de balancement des marées, qu'on appelle aussi zone intertidale ou estran, 130 km². Aujourd'hui, moins de 20 km². Tout a été industrialisé pour les développements industriels et portuaires et la ville du Havre. Donc ça, c'est irréversible. Alors que dans les systèmes marins, on a vraiment une capacité, si vous avez l'occasion de le lire, les systèmes marins sont des systèmes extrêmement résilients. Pour un peu que le stress, l'activité cesse. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Merci beaucoup pour ces informations. Oui, vas-y.
Je trouve cette question intéressante aussi parce que ça met le doigt un peu plus sur le mot résilient et ça pose la question de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot. Et je voudrais noter aussi qu'en métallurgie, il me semble que quand on parle de résilience, c'est pas la capacité à se remettre. En fait, c'est quand on commence à tordre ou déformer un métal, au moment où ça rentre en résilience, c'est pour dire que ça rentre dans un moment où ça ne peut plus revenir comme avant et que ça devient plus déformé. Donc, quand on pose la question de la résilience, est-ce que le territoire est résilient vraiment, c'est un peu la question de à quel point est-ce qu'on peut continuer à faire des trucs, à construire des choses et à faire des dommages à l'écosystème et savoir que peut-être après ça va aller à peu près. Donc c'est. Oui, oui, oui.
Ça me satisfait.
Merci, Evan. Est-ce que quelqu'un souhaite? Oui. Allez-y.
Oui, donc Pierre Berger, le professeur, moi aussi émérite de géographie et non conducteur camping-car. Je reviendrai bien sur cette question de résilience parce que effectivement, hein, c'est je crois historiquement, c'est un terme qui est apparu effectivement, résistance des matériaux. Alors, c'est la question du retour à la forme initiale, hein, plutôt. Donc, voilà. Mais alors, c'est passé en sciences sociales par le biais de la psychologie. Hein, notamment, les psychologues, certains psychologues américains d'abord, ont parlé de résilience du psychisme. Et puis, c'est arrivé dans les sciences sociales assez tardivement, il y a une vingtaine d'années. Donc, y compris en géographie, donc la preuve, puisqu'on parle de territoire résilient. Alors, je voudrais pas être désagréable, mais le problème, c'est quand même qu'un territoire n'est pas doué ni de raison, ni de conscience. Donc, parler déjà de territoire résilient, ça pose problème parce que un territoire, c'est pas un monsieur ou une madame, quoi. Hein, donc c'est pas un être animé, c'est pas un être conscient, c'est pas un être réflexif. Donc c'est pas le territoire qui est résilient, c'est les sociétés, c'est les gens qui sont dans un espace. Alors qui fait territoire ou pas, mais enfin on va pas développer. Mais c'est les gens. Et donc c'est la question plus du changement social, voilà, hein, que de la résilience des territoires qui se pose. Et là. Le problème, c'est par rapport à la résilience, c'est un changement sans retour parce qu'il faut changer, il faut imaginer des possibles. Donc ça veut dire des trucs qui n'ont jamais existé. Donc c'est pas un retour à un ancien temps, c'est un saut dans l'inconnu. Donc je crois que avec ce mot résilient, on risque d'avoir des confusions entre passé, présent et avenir, et puis se réfugier dans des rêves passéistes, voire réactionnaires, plutôt que d'imaginer un futur. Et c'est doivent faire les jeunes normalement, puisque nous, notre temps est passé. Donc voilà. Et dans cette question-là, c'est ce que disait mon voisin de derrière, c'est que une question fondamentale, c'est la question de qui va payer. Parce que tout ça, ça coûte des sous. Non seulement il faut imaginer des solutions et des possibles, mais en plus, il faut pouvoir les financer. Avec des contradictions, hein, c'est-à-dire, par exemple, comment assurer le droit à la propriété, puisque c'est aussi une garantie constitutionnelle, plus ancienne que la plus récente. Mais comment on peut garantir le droit à la propriété et l'assurer, tout en disant à des gens qu'il faut déménager. Parce que... Il faut aussi se mettre à leur place. Donc vous voyez, il y a des tas de questions qui se posent à la fois en termes d'imagination des possibles et de... Alors ça, c'est l'imagination. Et puis de réalisme, hein, en termes de financement et de qui va payer. Donc ça, je pense que c'est une question... Je ne sais pas si vous avez évoqué ça dans vos recherches, mais il me semble que c'est là-dessus qu'il faudrait un peu avancer. Voilà, j'arrête parce que j'ai déjà été trop long.
Merci beaucoup. C'était des observations et questions très intéressantes. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle... Oui. Tout en haut, Emma.
Oui, pardon. Donc, Laurent Dumonde, Réal. Oui. J'avais envie de vous poser la question dans les contacts que vous avez eus, les gens que vous avez rencontrés, et ça prolonge un peu la réflexion de Pierre. À un moment, la question de la responsabilité individuelle, des choix individuels, elle est quand même posée, elle est fondamentale. On peut toujours s'en remettre à l'État, à la commune, à je ne sais pas qui, au financement public et tout ce qu'on veut. Il y a un moment, c'est qui l'habitant du territoire, c'est qui l'habitant qui a un projet, c'est qui l'habitant, etc. C'est qui le réfugié climatique de demain qui se dit je vais peut-être changer mes comportements ou pas, parce que je suis le premier à la première. Enfin, est-ce que ça, c'est des choses que vous avez perçues et rencontrées ou pas?
Est-ce que vous souhaitez répondre à ces questions? J'ai pas compris la fin de votre question.
Alors, est-ce que dans les gens que vous avez rencontrés, interviewés, etc., vous avez senti la projection individuelle, les choix individuels des gens?
Ah, ok. Écoutez, je pense qu'on a rencontré des gens qui se sentaient concernés. Donc forcément, je pense qu'ils ont une action individuelle. Après, on a rencontré des élus aussi, notamment de la communauté de communes Cœur de Nacre. Donc forcément, ils nous ont parlé de ce qu'ils faisaient, eux, à leur échelle politique, du coup, donc avec plus de personnes autour d'eux. Mais pour moi, il y a vraiment un besoin de conciliation entre le fait de prendre part individuellement, mais aussi politique. Et je pense que, du coup, les personnes qu'on a rencontrées à ce moment-là ont forcément des actions qu'ils font par eux-mêmes, puisqu'ils se sentent concernés. Et c'est un peu là tout le problème aussi, c'est qu'il faut se sentir concerné pour faire bouger les choses. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire autant auprès des citoyens que des élus.
Merci.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question clairement.
Je pense qu'il y avait une réaction par ici.
Là, moi, c'est un travail que j'ai mené avec d'autres étudiants l'année dernière, des étudiants en formation continue, justement, dont certains qui étaient travaillaient dans des DREAL. Et alors, on a travaillé.
Est-ce que vous pourriez vous représenter, madame, s'il vous plaît ?
Ah oui, il faut que je me représente. Merci. Donc, Cécile Le Corollaire, universitaire.
Merci.
Et donc, avec les étudiants, on était intrigués du fait du prix de l'immobilier dans des zones. Comme vous les évoquiez tout à l'heure. Et donc, on est allé interroger et on a vu des choses assez intéressantes. Par exemple, on est allé dans les boucles de la Seine normande. Il y avait les gens qui habitaient en haut de la falaise qui risquaient de s'effondrer, qui ne voyaient pas du tout la même chose que ceux qui habitaient en bas de la falaise, qui allait leur tomber dessus. En fait, ceux qui étaient en bas de la falaise, ils étaient beaucoup plus inquiets. Enfin, c'était beaucoup plus problématique que ceux du haut de la falaise, qui avaient un paysage, il faut le dire, magnifique. Et en fait, les maisons qui se vendaient en haut de la falaise continuent à se vendre à un prix incroyablement élevé. Et alors qu'en bas, c'était un peu plus compliqué. Donc la question du paysage... faisait oublier, en fait, c'était le rêve d'avenir. En fait, c'était un rêve du présent au travers du paysage. Et on a vu aussi, alors dans le même contexte, il y avait beaucoup de raisonnements, de reports, on appelait ça des reports de responsabilité. Par exemple, dans une rue où il y avait vraiment beaucoup de risques liés au changement climatique, les gens disaient... Ah ben nous, il n'y a pas de problème en fait, parce que la mairie a donné un permis de construire pour faire construire une maison de retraite. Donc alors, du coup, si la mairie le fait, c'est que la mairie est bien responsable. Hein, nous, enfin, c'est pas voilà. Et puis il y avait aussi un report sur les agents immobiliers, parce que les habitants disaient, si les agents immobiliers vendent toujours des maisons à ce prix-là, c'est voilà, donc on est allé voir les agents immobiliers. Eux, ils ont dit, mais on a rempli tous les papiers, toutes les démarches administratives ont été... Voilà, donc on peut vendre cette maison-là, donc report. Et au final, en fait, tout le monde reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on avait constaté quand on allait voir les habitants sur le terrain.
Merci beaucoup pour cette intervention, madame. Je pense que, monsieur Gresselin, vous souhaitiez intervenir aussi tout à l'heure.
Oui, je voulais juste faire le constat par rapport à la question de Laurent. C'est qu'on fait tous des efforts, mais on n'en fait pas probablement suffisamment. Et même si on est un futur réfugié climatique sur notre côte normande, qu'on habite Ouistreham, Deauville ou autre, on ne se rend pas compte à quel point c'est important de modifier nos modes de vie de telle sorte qu'on puisse régler nos propres problèmes. C'est-à-dire que l'adaptation est possible uniquement si on modifie considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc sinon, on est vraiment acteur du risque à venir. Et là, les gens, je pense, en analysant votre réponse, n'ont peut-être pas cette perception-là encore qu'ils sont pris au piège de leurs propres pratiques, finalement, et qu'ils ne consentent pas à modifier leurs pratiques en dépit du fait qu'ils doivent le faire. Parce que peut-être, on a une assurance derrière, un système assurantiel, avec une mutualisation à l'échelle de la France qui nous permet de considérer que si on doit perdre notre bien, on nous le remboursera. Donc là, il y a une question de fond aussi qui se pose, sur laquelle, je ne sais pas, vous avez peut-être eu des informations lors de vos enquêtes.
Vas-y, Evan.
Alors, oui, justement, il y a quelques semaines, on a reçu un intervenant, donc, avec ma collègue Manon, qui avait un écolieu dans l'Orne. Je ne rappelle plus de son nom, c'était Boris. Voilà. Et ce monsieur nous expliquait son mode de vie. Donc, il consommait, il était à 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, donc ce qu'il faudrait avoir. Il avait des habitudes de vie qui nous paraissaient très, très choquantes. C'est-à-dire qu'il était végétarien. Donc, ça, c'est des gens qui sont déjà mis à ce régime et qui paraît ne plus être aussi étrange qu'avant. Mais il a aussi des toilettes sèches. Il prenait aussi une seule douche chaude par semaine. Et ça, avec toute sa famille. Donc, ils sont plusieurs à faire ça. Et ça, c'est des conforts de vie auxquels on s'habituait, auxquels on, personnellement, prendre une douche chaude par semaine. Lui, il était ravi. C'était sa petite récompense du week-end. Je ne suis pas sûr de vouloir passer le pas. Ah, bien sûr. Ah oui, il se douche. Ah ben oui, évidemment. Mais c'est juste, c'est des conforts de vie auxquels on s'est habitué. On ne pourrait peut-être pas revenir en arrière. Comme parlait, on est résistant, peut-être pas résilient.
J'allais rebondir aussi sur la question des assurances, parce que c'est souvent central aussi quand on parle de construction près de la côte, quand il est question du recul du trait de côte, quand on regarde ce qui se passe en Floride, et même avec le projet immobilier qu'il y avait sur la presqu'île de Caen, qui a finalement pas vu le jour. Tant qu'on peut construire et qu'il y a quelqu'un qui a envie d'y aller, ça peut continuer à se faire et à se vendre. Mais quand les assurances se retirent, qu'elles ne veulent plus prendre en charge les risques, ça devient compliqué. Je ne saurais pas dire exactement quand ça arrivera à différents endroits, quand il y a tant de tempêtes ou quand on se rend compte que qu'on ne peut plus habiter à certains endroits, c'est une question très très difficile. Ok, tous les gens qui sont logés là, où est-ce qu'ils vont? Comment est-ce qu'on va vraiment dédommager tous les gens, toutes les personnes qui habitent sur la côte de la France? Ça devient un enjeu vraiment énorme. Et oui, il y a différentes idées. Je sais que certains parlent de l'habitat léger. Est-ce que ça a une place aussi? Comment est-ce qu'on peut loger beaucoup de personnes qui vont devoir déménager à un certain moment? Je n'ai pas de solution facile.
Merci, Evan. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions, réactions de la part du public ou de la scène?
Oui. C'est juste Damien Levallois, donc à l'Adréal Normandie. Donc, en charge de développement de l'éolien, donc je vais parler plutôt énergie et revenir sur une prise de parole et puis sur la dernière concernant le régime végétarien, par exemple. Alors, il a été dit à un moment donné que les énergies s'ajoutaient les unes aux autres. Alors, bien entendu, si l'on fait que de l'énergie au sens produire de nouveaux systèmes d'énergie, ce serait le cas, mais il y a d'autres politiques qui se mettent en place. Si on prend quelques exemples, le fait de passer du transport thermique au transport électrique, c'est bien qu'on supprime le fossile qu'on a remplacé par l'électrique. Si on fait de la rénovation de bâtiments, c'est pour moins consommer d'énergie. Donc il faut voir toutes les autres politiques qui se mettent en place autour de finalement la transition en tant que telle, et parce qu'il y a une transition sur plusieurs politiques qui permettent de ne pas additionner. Et on construit et on reconstruit que 60% de notre consommation à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'on va abandonner 40% d'énergie que l'on consomme aujourd'hui, qu'on dispose d'aujourd'hui. Et pour réussir à faire cette sobriété de 40%, il faut aller toucher au régime alimentaire. Donc le sujet, c'est-à-dire que si on veut moins consommer d'énergie à cette hauteur-là, puisqu'on reconstruit un système énergétique qui nous apportera que 60% de notre consommation d'aujourd'hui, il faut aller jusqu'à toucher notre régime alimentaire.
Merci beaucoup. C'est ce qui clôture notre temps d'échange avec vous. Je vais repasser la main à Zoé ou Antoine. Les deux. Merci beaucoup.
Merci tout le monde pour ces échanges. Eh bien, ce temps de questions marque la fin des interventions étudiantes pour aujourd'hui. Nous allons donc passer au dernier temps, donc le temps des remerciements. Donc nous, étudiantes de DDSC, souhaitions remercier toutes les formations pour leur travail, également toutes les personnes ayant participé à l'organisation de ce colloque. Nous remercions également chaleureusement la CNDP et les membres de la CPDP pour leur confiance et leur sympathie accordée. Et nous remercions particulièrement Madame Sylvie Le Calvez qui nous a accompagnés dans l'organisation de ce colloque. Merci beaucoup.
On peut l'applaudir.
Qui a beaucoup travaillé. Qui a travaillé de longues heures et j'espère qu'aujourd'hui ça a payé. Donc un grand merci à vous et un big up un peu spécial pour les étudiants du groupe de DDSC parce qu'on y est arrivé, ça y est. C'est bon, maintenant vous savez ce qui va se passer après. Voilà.
Vous allez bientôt recevoir prochainement une synthèse des travaux qui ont été rendus aujourd'hui, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. Donc je vous invite à le remplir et à mettre une bonne note. Enfin, je ne sais pas si c'est sous forme de notes, mais... et sur ce, je vais laisser la parole à nos professeurs, Madame Sylvie Le Calvez et Monsieur Didier Le Goupil, pour les discours de clôture. Je vous remercie.
Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai eu quelques conversations avec certains d'entre vous. D'abord, je voudrais vous remercier de votre présence, de votre participation, que ce soit bien sûr les étudiants, les collègues enseignants, les membres de la CNDP et puis les représentants de l'État. C'est ce qui a fait que cette journée, en tout cas du point de vue que j'avais ici au premier rang, est une réussite, je trouve. Je veux saluer vraiment le travail des étudiants, et non seulement des étudiants de DDSC, qui se sont effectivement chargés, peut-être en plus des autres promos, de l'organisation de ce colloque, mais remercier aussi les étudiants des autres formations qui se sont prêtés au jeu et qui se sont investis énormément de manière à apporter une contribution vraiment de grande qualité. Alors, le point de vue peut-être plus de l'enseignant et du responsable du master, le colloque est toujours un grand moment pour nous parce que je le vis comme un passage de témoin, c'est-à-dire que je suis rarement assis dans un amphi à écouter d'autres personnes. Je suis plutôt à cette place. Et le plaisir que j'ai à écouter les étudiants, à constater à quel point ils sont prêts, très souvent, pour passer le pas, pour entrer dans la vie professionnelle. Ce qui sera le cas en deux étapes, puisqu'ils vont commencer par un stage de 6 mois. En tout cas, je parle pour les étudiants de DDSC, qui est une véritable professionnalisation. Mais ils sont prêts, c'est-à-dire que je dois rappeler, mais je pense que vous l'aviez compris, qu'ils ont pris, ils ont assuré entièrement l'organisation et l'animation de ce colloque. Madame Le Calvez et moi-même n'avons été que des accompagnants. Ils ont travaillé avec une relative autonomie, de même qu'ils avaient travaillé avec une relative autonomie aussi sur les études de cas qui ont nourri leurs interventions d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé depuis quelques années, c'est que ce colloque soit celui des étudiants et pas le colloque des enseignants, même si évidemment notre rôle est important, bien sûr, dans la formation, mais donc une forme de passage de témoin d'une génération à l'autre aussi, même s'il y a parmi vous des gens qui sont plus jeunes, parmi les enseignants ou autres, mais de vous passer la main et peut-être de ne plus utiliser ce concept de génération future, mais plutôt de génération présente, puisque vous n'êtes pas une génération future, c'est vous maintenant qui allez assurer cette transition écologique à laquelle on aspire tous. En tout cas, merci et bravo pour votre travail. Et merci à vous pour votre présence. Je vais passer la parole à Madame Le Calvez, mon alter ego dans cette formation.
Merci, chers collègues. Donc bonsoir maintenant, parce que la journée est passée. C'est dur parce qu'à chaque fois, il passe avant moi, donc il me pique 80% des éléments que j'ai préparés pendant la nuit. C'est toujours comme ça, je ne devrais jamais lui montrer. Redire au nom de... Parce que j'ai la double casquette aujourd'hui, celle de membre de la commission particulière du débat public et celle de professeur associé, notamment dans ce master développement durable, stratégie de concertation et de communication, mais pas seulement, parce que j'interviens aussi, par exemple, pour les greens et un petit peu en géographie aussi. Mais féliciter vraiment, vraiment les étudiants. J'avais même le trac de reprendre la parole après. Parce que quand je vois comment ils sont super bons pour animer, pour organiser, pour faire des affiches, pour faire des films, pour tout, je me dis waouh, c'est un vrai passage de témoin, c'est super. Donc merci, bravo aux étudiants qui ont travaillé. Alors pour tout vous dire, la semaine passée, ça m'avait un peu échappé, c'était les vacances universitaires. Et quand on s'est aperçu de ça, il y a eu une espèce de trou là, je me suis dit on va jamais y arriver quoi. Enfin, ça ne va pas être possible dans les temps. Et bien, ils ont renoncé à leurs vacances, il faut quand même le dire, pour travailler tous les jours sur la préparation de ce séminaire, y compris jusqu'à des heures fort tardives. Je ne vous dirai pas l'heure des mails, mais franchement, bravo bien sûr aux étudiants que j'ai suivis de plus près, ceux qui étaient à la manœuvre de l'organisation, et puis à tous les autres, ceux qui ont contribué, et aux collègues qui les ont encadrés aussi, Bruno, Maël, Julien et beaucoup d'autres pour les enseignants. Certains sont partis, d'autres sont toujours là, je les en remercie. et les étudiants de toutes ces promotions qui ont été citées, avec qui on se joignait régulièrement en visio pour faire des petits points ou en présentiel au couture d'un casse-croûte le midi, c'est arrivé aussi. Donc merci, félicitations d'abord évidemment aux étudiants de toutes ces promotions. Merci à la CNDP et à la CPDP bien sûr d'avoir permis ce riche partenariat. Alors mon collègue parlait du séminaire. C'est vrai que mais le séminaire d'habitude c'est quand même énormément raccourci. Déjà, ce n'est plus une journée complète. Là, c'était une grosse journée. Et avec beaucoup, beaucoup d'interactions avec d'autres établissements, avec évidemment des intervenants, des personnes ressources, des voyages d'études, etc. à organiser. Et donc, ça a multiplié par un coefficient que je ne donnerai pas considérablement la mission, y compris celle des étudiants d'aujourd'hui. Donc, félicitations d'autant plus parce que le challenge était d'autant plus élevé. Mais merci vraiment à la CNDP d'avoir permis ces conventions et ce partenariat, puisque ça a permis à tous les étudiants d'être directement confrontés à ces enjeux, à ce débat qui est vraiment important pour le devenir, disons-le, de l'humanité. Et on l'a bien vu à travers tous les aspects abordés. Merci aux représentants de l'État qui sont venus nombreux aujourd'hui, hein, que ce soit du SGAR, de l'ADREAL ou de la DIRM, pour leur appui là aujourd'hui, pour leurs commentaires, pour leur retour bienveillant. Merci Monsieur le Président du Conseil scientifique, Monsieur Dauvin aussi, et à tous ceux qui sont intervenus, hein, les collègues divers, je pense aussi à Cécile là, qui est là, et puis beaucoup d'autres. Merci à tous les citoyens aussi qui sont venus, qui sont restés toute la journée s'intéresser à ce sujet. Il y en avait quelques-uns dans la salle. Merci encore au CEMU pour la captation des images. On est toujours ravis d'avoir après la chance de pouvoir avoir une rediffusion possible pour ceux qui n'ont pas eu la chance justement d'être là aujourd'hui et qui pourront revoir en boucle s'ils le souhaitent. Et vos enfants, vos petits-enfants, peut-être, un jour, ces images qui vous seront envoyées en même temps, en général, que la synthèse. On vous envoie des liens qui reprennent les différentes parties de ce séminaire. Ah, effectivement, maintenant, chacun d'entre vous est prêt, dans 3 semaines, à partir en stage, puis à se lancer dans la vie professionnelle. Je pense que le passage du témoin est bien lancé. Merci encore à tous pour votre participation. Bonne fin de soirée et bon retour. Si Dominique Pacoury, délégué régional, veut dire un petit mot, c'est possible de venir me rejoindre, nous rejoindre, et de dire un petit mot pour clore cette journée. Merci beaucoup.
Comme je sais qu'on est tous pressés, on vous remercie tous de cette journée, de cette préparation, de vos investissements. Donc on va en tenir compte bien évidemment pour ce débat. J'avais juste une petite demande. On a des cartes à réaliser dans le cadre de ce débat pour mettre en place ou des CNP, des ZPF, excusez-moi, ça je suis un peu ému, ou alors des cartes propices à l'éolien en mer. Allez sur notre site, mettez des cartes, faites des zonages. Ça nous sera très utile pour l'étude qu'on a à faire sur ce sujet, et c'est une demande dans le cadre de ce débat. On compte sur vous, et je vais retenir les noms de ceux qui ont fait les cartes, et pas le contraire. Merci à tous, et bonne soirée.